Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous pour écouter Éric Orsenna à la librairie Filigrane nous parler de son dernier ouvrage, qui est un roman historique avec lequel vous renouez l'entreprise des Indes. Et alors, avec ce livre, vous vous attaquez à un personnage légendaire, à une figure comme ça très importante dans la civilisation occidentale, qui est Christophe Colomb. Et l'angle que vous avez adopté pour ce livre est tout à fait original, parce que c'est pas simplement l'histoire de Christophe Colomb, c'est l'histoire de Christophe Colomb racontée par son frère. Et donc d'emblée, on est dans une vision assez intime de l'histoire des grandes découvertes. Qui était ce frère Bartholomé Colomb, et pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée de raconter Christophe Colomb par le regard de son frère?
Alors bonjour à tous. Heureux de me retrouver à Bruxelles, heureux de me retrouver ici à Filigrane, heureux de parler à Juliette. Il se trouve que depuis longtemps, j'avais envie de trouver un moyen de raconter l'histoire de Christophe Colomb. Parce que je suis navigateur, amateur, mais passionné, d'une part. Parce que j'ai une partie de ma famille qui est d'Amérique latine, une partie à Cuba, une partie au Brésil. Parce que j'ai une passion pour ces deux siècles, 15e, 16e siècle. Bref, j'avais envie de raconter. Vous savez, les sujets de roman, c'est au fond suite à une interrogation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est au fond que cette découverte? Est-ce que c'était une découverte? Est-ce que c'était une rencontre? Qui découvrait qui? Toutes ces questions, qu'est-ce que c'est que, au fond, cette première ouverture du monde? Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Parce qu'il se trouve que je suis économiste et je voulais essayer de trouver dans cette première ouverture du monde à tous les continents des réponses aux questions que nous nous posons aujourd'hui sur la mondialisation. Bref, j'avais toutes ces interrogations. Et pour moi, un roman, c'est un bateau. Un roman, c'est une machine à explorer. Vous voyez, 100 ans de solitude, par exemple, explore l'identité sud-américaine. Si vous voulez savoir ce qu'est le Cachemire, à la frontière de l'Inde et du Pakistan, il n'y a rien de mieux que lire le livre de Salman Rushdie qui s'appelle Shalimar le clown, etc., etc. Si vous voulez savoir ce que c'est que les premiers jours de l'indépendance de l'Inde, du même Salman Rushdie, vous pouvez lire Les enfants de minuit. Donc pour moi, un roman, c'est vraiment une machine à explorer. Donc, je cherchais l'histoire. Et je trouvais pas l'histoire. Et puis, un jour, je lis, parce que la plupart du temps, les livres engendrent les livres. Comme dans Cervantes, les histoires engendrent les histoires. Les rêves engendrent les rêves. Un jour, je lis que Christophe Colomb fait naufrage en août 1476 au large du Portugal. Il a 25 ans. Il s'en tire par miracle, en nageant tant bien que mal, et il trouve refuge à Lisbonne, chez son petit frère, Bartholomé, qui a 21 ou 22 ans. Lequel Bartholomé est cartographe. Alors là, dès que vous lisez ça, si vous êtes écrivain, vous avez toutes les antennes qui sont dressées, et vous dites, je tiens mon histoire. Et quand vous continuez un peu votre recherche, vous vous rendez compte que les deux frères Colomb, ce que je ne savais pas, sont restés à Lisbonne entre 1476 et 1484, qu'ils ont préparé ensemble le voyage vers l'ouest, qu'ils l'ont présenté à un comité des mathématiciens qui conseillait le roi Jean II du Portugal, que le comité a émis un avis négatif. C'est pour ça que les deux frères ont abandonné le Portugal et ont été après présenter leur projet au roi d'Espagne. Mais leur projet était déjà préparé, et comme je sais en tant que navigateur que les préparatifs font partie du voyage, je me suis dit, je vais raconter cette période, la période portugaise de Christophe Colomb. Voilà comment ça s'est passé. Donc, dans un premier temps, il fallait apprendre. Donc, j'ai lu comme un fou, comme d'habitude, mais encore plus. J'étais à Lisbonne, bien sûr. J'étais à Séville. J'étais au département des cartes de la Bibliothèque nationale. J'étais à Louvain, J'étais à Strasbourg, j'étais à Madère, à Porto Santo, à Hispaniola, c'est-à-dire à Saint-Domingue. Bref, j'ai travaillé comme un fou. Et ça, c'était un an et demi. Et puis, au bout d'un an et demi, j'ai testé cette affaire. Et donc, j'ai raconté, j'ai donné 3 conférences sur le thème. Et je voyais les gens absolument sidérés, ne sachant pas la période portugaise de Christophe. Et là, j'ai eu cette conviction qu'il y avait vraiment une histoire. Et à partir de là, entre le moment où vous savez et le moment où vous écrivez un roman et dont vous êtes satisfait, des tas d'années se passent parce qu'il faut ruminer. Je dis souvent qu'un romancier, c'est une vache, c'est-à-dire qu'il a plusieurs estomacs et qu'il rumine, ou c'est du compost. Et petit à petit, il y a des personnages qui montent, il y a des rythmes qui s'imposent, il y a des langues qui vous parlent. Et petit à petit, j'ai fait ce livre. Et donc, ce livre a nécessité donc 5 ans de travail. J'ai fait d'autres choses en même temps. Mais vraiment, le rendez-vous quotidien du matin, c'était ce livre. 9 versions. La première, 500 pages. J'en ai jeté 490. Donc, c'est vous dire, c'est un travail avec la récompense de, voilà, de cet accueil. Et donc, c'est une histoire qui me permettait aussi de renouer avec les romans historiques que j'avais tant aimé faire, et notamment l'exposition coloniale, puisque 22 ans ont passé depuis le moment où j'ai eu le Goncourt. Ces années ont passé comme des lettres, comme ça, à la poste, enfin, en expresso, et colissimo. Et voilà. Donc voilà une sorte de longue réponse à la première question ô combien pertinente de Madame Juliette.
Justement, ce frère de Christophe Colomb, vous avez dit énormément de choses, mais ce qui est important, c'est qu'il était cartographe. Et la cartographie, c'est un élément essentiel des grandes découvertes, parce qu'il n'y avait pas seulement les marins, il y avait aussi tous ceux qui travaillaient à ces grandes découvertes. Et on peut faire un lien aussi avec ce que vous dites beaucoup dans le livre, c'est que lire ou écrire, en l'occurrence écrire des cartes, c'est aussi une forme de navigation.
Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'Europe de cette époque est à feu et à sang. J'entre pas dans les détails, mais regardez, pays par pays, il y a des tensions de toutes sortes. Il y a un endroit calme, c'est le Portugal. Le Portugal s'est libéré des invasions arabes bien avant, et donc c'est un endroit qui est paisible et qui recueille tous ceux qui s'intéressent à la navigation. Donc, ils ont gardé les Arabes, qui sont très forts dans les sciences de l'irrigation, des jardins et des mathématiques. Ils ont accueilli les Juifs, notamment les Juifs cartographes de l'école de Bajorque, qui ont été chassés par les rois de Catalogne. Ils accueillent d'autres mathématiciens qui viennent du cœur de l'Europe, et notamment de la Bohème, dont un certain Martin Béhaïm. Ils accueillent évidemment des commerçants, ils accueillent tous ceux qui construisent les bateaux, ils accueillent tous ceux qui peuvent leur donner des informations sur la navigation. Il faut que vous vous rendiez compte que Lisbonne, à ce moment-là, c'est à la fois la Silicon Valley et Cap Canaveral. C'est la Silicon Valley parce que tout le savoir du monde est réuni là, et c'est Cap Canaveral parce que c'est de là que partent les bateaux. Et alors, regardez comment ça se passe. Vous avez un projet de bateau, de voyage. Vous allez voir le roi. Le roi vous dit, bon, ça m'intéresse, allez-y. Et on descend, voyage après voyage, le long de l'Afrique. On descend parce que on veut explorer l'Afrique, mais on veut aussi trouver une voie qui permette de gagner par la mer les Indes et la Chine. Par la mer, pourquoi ? Parce que les voies terrestres sont devenues de plus en plus dangereuses, notamment depuis la prise par les musulmans de Constantinople. Donc la traditionnelle route de la soie est plus ou moins fermée. Donc on dit on va passer. Sauf que l'Afrique est beaucoup plus longue que prévu. Donc de voyage en voyage, on descend. Et à chaque fois, quand le capitaine revient, on dit « Vous avez trouvé la fin de l'Afrique ?» Non, non, Ça continue, et ça continue, et ça continue. Donc on dépasse l'équateur, on continue, on voit des déserts, ça continue, on voit des fleuves, ça continue. Il commence à faire froid, ça continue. Et il faudra attendre 1488 pour qu'on trouve enfin la pointe sud et que s'ouvre la voie qui donnera la possibilité à des Vasco de Gama de développer des grandes expéditions. Donc ça, c'est ces voyages. Et ce qui se passe est tout à fait passionnant, parce que imaginez le retour d'un bateau. Le bateau, il est parti parfois il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Donc les femmes sont là en se demandant, mais est-ce que c'est le bateau sur lequel il y a mon mari qui revient ou non un autre ? Il se trouve que ce thème de l'attente des femmes m'a énormément touché, parce que j'ai passé toutes mes vacances tout près de l'île de Paimpol. Paimpol, c'était l'endroit d'où on partait pour la grande pêche en Islande. Et j'ai entendu des femmes qui me racontaient les années 20, les années 30, quand j'étais petit, en disant qu'on voyait une voile au loin, et on se demandait de la même manière, est-ce que sur cette goélette est mon mari ou non ? Et que certaines campagnes, 8 ou 10 goélettes ne revenaient pas. Donc cette angoisse-là, c'est celle qu'ont les femmes de Lisbonne quand elles voient arriver les bateaux. Donc ça, c'est un thème inouï. Mais il y a un deuxième thème. Le bateau arrive. Le bateau, il est dans un état pitoyable. Ça fait 5 ans, 6 ans qu'il a navigué. Alors, il y a un personnage capital sur le bateau qui est le notaire. Le notaire, c'est le représentant du roi. Comme c'est le roi qui a financé, le notaire a la priorité pour dire au roi tout ce qu'il a trouvé. Et notamment les nouveautés en termes de cartes. Donc il va voir d'abord le roi, avant de débarquer, pour dire voilà ce qu'on a trouvé, voilà les nouveautés, ici il y a un banc de sable, ici il y a un écueil, ici il y a des courants, voilà ce qu'on se passe. Et au fur et à mesure de ces nouveautés, une sorte de carte idéale, qui est gardée dans les coffres-forts du roi, est complétée. Voyage après voyage, on améliore la carte. Première chose. Ensuite, on peut débarquer. Alors, on débarque toutes sortes de végétaux nouveaux, des esclaves, bien sûr, toutes sortes de végétaux nouveaux, toutes sortes d'animaux nouveaux, toutes ces nouveautés qui arrivent sur le port et qui sont, évidemment, regardées, fascinées par les populations. Alors, dans le livre, je raconte cet épisode invraisemblable. Imaginez ce que c'est quand la première fois arrive un rhinocéros. Mais il y a plein d'autres surprises qui arrivent. Les éléphants sont connus grâce aux Romains. Mais les rhinocéros, pas du tout. Il y a des tas d'autres bêtes qui arrivent. Donc c'est vraiment le nouveau qui arrive. Et donc, je raconte qu'on est obligé de nommer ce nouveau. Donc, voyez cette ambiance-là. Et alors, pour ajouter la ressemblance avec le monde d'aujourd'hui, c'est que l'imprimerie, vous le savez, date en gros de 1455-1460. Donc les premiers livres imprimés arrivent 20 ans ou 25 ans avant l'époque dont je parle. Donc vous avez à Lisbonne énormément de cartographes, énormément de libraires aussi, et vous êtes dans un univers qui est intéressant pour nous, puisque d'un côté vous avez donc l'aspect Silicon Valley, mais de l'autre côté vous avez Internet. Et que l'imprimerie, c'est évidemment la diffusion du savoir. Et la carte idéale, qu'est-ce que c'est ? C'est taper Google, état du monde. Donc ce qui m'intéresse, moi, dans l'histoire, c'est pas seulement la nostalgie, c'est dire, au fond, en quoi ça me renseigne sur l'univers d'aujourd'hui.
Bah, c'est une magnifique, en tout cas, description de la mondialisation. Et là, vous nous parlez de la première mondialisation, finalement, le 15e siècle, c'est ça, avec toute la part de savoir, de nouveauté, mais aussi une part sombre, évidemment, parce que la Renaissance, le 15e siècle, il est encore un pied dans le Moyen-Âge. Et ça, vous le montrez très très bien dans votre livre, à quel point Christophe Colomb, bien, c'était pas seulement un inventeur, un génie, il était aussi empreint de toutes sortes de forces sombres du Moyen-Âge et le résultat des grandes découvertes, en tous les cas, cette grande découverte que vous assumez dans le livre, c'est aussi la découverte de la barbarie humaine. Et ça, c'est l'envers de votre livre, c'est-à-dire qu'il y a toute une première partie sur cette frénésie de la découverte, mais le revers de la médaille, c'est bien sûr la découverte des barbaries commises à l'égard des Indiens. Alors votre livre n'est pas là pour juger, bien sûr, mais vous essayez de remonter à la source de cette mondialisation. Est-ce que la mondialisation, pour vous, c'est ça, c'est double ? Il y a un formidable terreau de connaissances, et en même temps, il faut se respecter, respecter ce que l'on découvre ?
Alors, il y a deux choses dans votre question. Il y a la description de cette fin de Moyen-Âge, où vous êtes dans l'ignorance, dans la magie, dans les légendes, et dans la montée de la science et la montée du savoir. Il faut que vous compreniez bien qu'en matière de géographie, on savait l'essentiel 3 siècles avant Jésus-Christ. 6 siècles avant Jésus-Christ, on savait que la Terre était ronde. En 260 avant Jésus-Christ, le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie a une idée. On lui a dit qu'à Assouan, en Égypte, le jour du solstice, il n'y a pas d'ombre sur les obélisques. Mais le même jour, il y a une ombre chez lui à Alexandrie. Il se dit que si je peux calculer l'ombre que fait le soleil au solstice à Alexandrie, d'une part, et d'autre part, la distance exacte entre Assouan et Alexandrie, je vais pouvoir en déduire la taille de la circonférence. Il mesure les angles parfaitement. Le problème va être ensuite de mesurer la distance. La seule façon qu'il a, c'est de mesurer la distance avec les pas des chameaux. Or, un chameau, il avance avec une précision pas toujours garantie. Mais en dépit de cette incertitude, cet Ératosthène, 260 ans avant Jésus-Christ, mesure la circonférence de la Terre avec moins de 5% d'erreur. Moins de 5% d'erreur, grâce à la trigonométrie. Nous avons tous des souvenirs de trigonométrie dans nos classes. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Voilà. La trigonométrie, c'est évidemment la science des histoires. Il y a, je cite dans le livre, mais des tas de livres qui ont célébré la gloire du triangle. La trigonométrie, c'est cette matière formidable. Par exemple, quand vous voyez quelque chose avec vos deux yeux, vous formez un triangle. L'objet que vous voyez et vos deux yeux vous permettent de calculer la distance, en tout cas de l'apprécier. Et si vous perdez un œil, vous perdez le sens de la distance. Etc., etc. Je pourrais rester des heures parce que grâce au livre, j'apprends, figurez-vous.
Et vous transmettez aussi.
Et j'essaye de transmettre. Donc, on sait, 2 siècles et demi, on sait. Et puis, pendant 17 siècles, il va y avoir une chape de plomb.
La faute à qui ? Au christianisme ?
Au texte saint, au texte sacré, qui se méfie du savoir. Il y a même une expression extraordinaire qui vient de saint Augustin, qui est la sainte ignorance. Vous vous souvenez peut-être qu'on aime les mystères, et la bonne façon, c'est une ligne de la religion catholique, mais d'autres religions aussi, et on en voit aussi dans des obscurantistes d'aujourd'hui qui se méfient de la science, qui ont peur de la science, et ils disent « la bonne façon d'atteindre Dieu, c'est une sorte de foi confiante, la foi du charbonnier, ce qu'on appelle la sainte ignorance ». Cette sainte ignorance, c'est pas trop grave pour les voyages, tant qu'on est sur Terre, ou tant qu'on longe la Terre. Quand vous êtes en cabotage, s'il y a du brouillard, vous attendez que ça se passe, ça se lève. S'il y a une tempête, vous allez au large, puis vous revenez. Mais quand vous voulez traverser un océan, vous êtes bien obligé de savoir un peu de mathématiques pour repérer la hauteur des étoiles. Donc vous êtes obligé de passer par le savoir, passer par les courbes. Et donc là, vous êtes obligé de passer par la science. Et donc là, vous êtes obligé de faire voler en éclats la sainte ignorance. Alors dans la sainte ignorance, il y a d'autres choses. Il y a des légendes concernant les îles. Vous imaginez que pour quelqu'un qui a le projet de traverser l'Atlantique, la bonne nouvelle serait qu'il y ait des îles sans arrêt, jusqu'à l'ouest, pour qu'on passe d'île en île, comme de pierre en pierre d'un guet. Et alors sur les îles, il y a des îles connues, comme les Açores, comme les Canaries, et puis il y a des îles légendaires, dont on ne sait pas si elles existent vraiment. Il y a par exemple les îles du Devant, Antéilia, Antilles. Antilles, ça veut dire les îles qui sont devant. Donc on ne sait pas si elles existent vraiment. Et puis il y a des îles légendaires. On raconte que quand les musulmans envahissent au bout l'ensemble, jusqu'au bout du nord-ouest, l'ensemble de la péninsule ibérique, il y a 7 évêques qui s'en vont. Et ces évêques, ils se réfugient sur une île. On ne sait pas laquelle. Mais Dieu leur donne le pouvoir de faire disparaître l'île à chaque fois qu'il y a un bateau ennemi de pirates musulmans qui arrive. Donc on dit, parmi les navigateurs, que quand on ne voit pas la terre d'une île, mais des oiseaux qui survolent une île invisible, ça veut dire que c'est une île qui est habitée par les 7 évêques et tous ceux qui les ont suivis, et que dès que les bateaux ennemis partiront, l'île réapparaîtra. Donc c'est ce mélange de savoir, de légende, de confiance dans le christianisme, de terreur des infidèles, et tout ça est grand mélangé, c'est cet élément-là. Et enfin, il y a un autre élément, c'est que c'est un monde extrêmement religieux. Et donc, si on veut aller au loin, c'est pour convertir, et c'est pour essayer de trouver le paradis sur terre. Et Christophe Colomb, à la fin de sa vie, écrit un livre très émouvant, fou, mais très émouvant, qui s'appelle « Le livre des prophéties ». Et le livre des prophéties, c'est quoi? C'est de lire tous les textes saints, ce que fait Christophe Colomb. Il lit les textes saints et il essaye de noter dans chacun de ces textes la preuve qu'il était attendu, lui. Donc il prend les livres de d'Antiquité ou de Saint-Augustin, il dit « Ah, là on parle d'un marin, c'est moi. La Bible, c'est moi. » Donc un peu, il y en a qui se prennent pour
un
Napoléon.
Un nouveau Christ, quoi.
Oui, un nouveau Christ. Ce qui veut dire qu'au fond, son entreprise n'est pas une entreprise de découverte, c'est une entreprise d'accomplissement.
Ou de reconnaissance.
Et de reconnaissance. Il accomplit ce qui était annoncé. Et on se demande souvent pourquoi les Indiens, qui étaient tellement plus nombreux que les Espagnols, ont-ils accepté? C'est qu'eux aussi avaient des légendes qui annonçaient des dieux venus des lointains. Donc Christophe Colomb ne découvrait pas, il accomplissait les Écritures saintes, et les Indiens ne découvraient pas, ils reconnaissaient quelque chose, quelqu'un, une divinité qui était déjà connue. Donc là, on est dans ce monde-là. Christophe Colomb arrive, il débarque, d'abord dans une partie qui est la partie d'Haïti, ensuite il va à Saint-Domingue, et au début, ça se passe bien. Ça se passe bien. Il découvre des endroits merveilleux. Il faut aller, quand vous allez à Saint-Domingue, il ne faut pas seulement aller dans les plages, sur les plages. Il faut aller dans cette formidable campagne à l'intérieur, avec des sommets assez hauts, parce qu'il dépasse 3000 mètres. Il y a des vallées profondes, il y a des endroits. Donc c'est un endroit merveilleux, ça se passe pas bien. Mais évidemment, les gens qui l'ont emmené, c'est des soudards. Ceux qui osent partir, c'est pas ce qui se fait de plus raffiné. Donc quand Christophe Colomb s'en va, il se livre à toutes sortes d'exactions avec vis-à-vis des Indiens et vis-à-vis des femmes des Indiens. Ça, c'est la première chose. Violence terrible, des meurtres, etc., etc. Première chose. Mais surtout, Christophe Colomb a vendu son voyage en disant « Je vais trouver les pierres précieuses et l'or du Japon et de la Chine. » Or, il se trouve que ce qu'il a découvert n'est ni le Japon ni la Chine, mais un endroit merveilleux où il y a peu d'or. Il y en a dans les rivières, il y a des mines, mais qui ne sont pas suffisamment productives. Donc, il pousse les Indiens pour donner plus, plus. Et comme ils ne peuvent pas, eh bien, il les égorge, il fait des trucs épouvantables et tout ça. Donc c'est ça aussi. La part d'ombre, c'est la fausse promesse qu'il a présentée au roi pour justifier son voyage, justifier les financements, il est prisonnier de ce mensonge qu'il a fait, lequel mensonge est en fait une erreur, parce que s'il était allé directement en Chine et au Japon, il aurait sans doute trouvé plus d'or, peut-être aurait-il été moins cruel. Donc, on est dans cette découverte qui est merveilleuse d'ouverture et terrifiante de cruauté. Et je voulais en profiter pour vous dire que un roman, par rapport à un essai, c'est le lieu de l'ambigu. On ne juge pas, il y a du bien, il y a du mal. Et dans la fièvre de la découverte, il y a déjà en partie la racine de la domination et la racine des cruautés absolument invraisemblables qui seront dénoncées par les dominicains. Vous avez peut-être entendu parler aussi de la controverse de Valladolid. Donc on est vraiment un moment où se révèlent quelques-unes des données essentielles de l'être humain, c'est-à-dire la découverte, la curiosité, la fièvre, mais aussi la domination, la cupidité, l'obscurantisme, le repli, etc. Donc, ça parle pas mal d'aujourd'hui.
Si vous voulez, on peut lire un passage qui illustre ce que vous venez de dire. Est-ce que vous voulez le lire ?
Ou allez-y. Allez-y, mademoiselle Juliette.
Justement,
allez-y.
c'est sur la découverte et la découverte et en même temps la confession que fait le frère de Christophe Colomb. Parce que votre livre, c'est une mise en scène aussi de ce frère à la fin de sa vie qui fait une sorte de confession à ce frère dominicain, Las Casas, qui existe vraiment et qui, 30 ans plus tard, racontera une histoire critique des grandes découvertes et qui sera, vous en parliez, pendant la conférence de Valladolid, l'un des plus grands défenseurs de la cause indigène. Je ne sais pas si c'est vrai que Bartolomé a parlé à Las Casas. Ça, c'est une mise
alors,
en scène.
Alors, regardez un peu avant que vous lisiez. Je voudrais vous donner l'exemple d'un processus romanesque. Las Casas était un colon.
Pas un frère.
Non, c'est ça. Non, pas un... Oui, exactement. Était un... Un colonisateur. Son père avait participé au deuxième voyage de Christophe Colomb. Donc il avait des terres qui faisaient fructifier en étant, comme tous les autres, particulièrement cruel avec les Indiens. Il se trouve qu'il ne supporte plus ça et il décide d'entrer dans les ordres, il devient dominicain. Et à partir de là, il se dit, comment puis-je être utile et comment, d'une certaine manière, puis-je réparer un peu ce que j'ai fait. Donc je vais raconter l'histoire de la découverte. Voilà, ça c'est sûr. Donc il va raconter l'histoire de la découverte. Et il se trouve dans l'île d'Hispaniola à commencer son travail pour raconter l'histoire de la découverte. Et dans la même île d'Hispaniola se trouve à la fin de sa vie, puisqu'il a choisi de finir sa vie là, Bartolomé Colomb, qui a été le premier gouverneur d'Hispaniola. Donc il est hautement probable que l'une des toutes premières conversations, demandes d'information de Bartolomé Las Casas soit auprès de Bartolomé Colomb, qui est celui qui sait le plus de choses. Donc j'ai aucun document prouvant, établissant la réalité du contact. Mais il y a de très hautes probabilités que les deux se soient parlé. Donc, un historien pourrait rien dire, un romancier prolonge les pointillés. Je voulais juste vous dire pour un autre roman que j'ai fait sur l'Afrique, Madame Ba. Si je fais un reportage, je prends telle Africaine et je raconte un peu son aventure, ou une autre Africaine et je raconte un peu son aventure. Et dans le roman Madame Ba, j'ai pris trois Africaines qui sont des amies proches. Avec ces trois, j'ai fait une dame et je raconte l'aventure d'une Malienne qui demande un visa. Donc, le reportage, c'est vous en tenir à une seule. Le roman, c'est un mensonge parce que vous en avez mis les trois en une. Si vous avez réussi votre affaire, vous faites ce que Louis Aragon disait d'un roman. Le roman, c'est le mentir vrai. Vous mentez, mais ce mensonge est une machine... un outil qui vous permet, si tout va bien, d'aller plus loin que la vérité.
Et ce mensonge, c'est aussi dans le cas d'un roman historique, un magnifique tissage de l'histoire et du roman, bien sûr. Alors, je vous lis donc une des dernières pages du livre qui est magnifique et où c'est en fait un dialogue presque imaginaire entre Bartholomé et son frère, Bartholomé à Christophe, qui est mort depuis plusieurs années. Pourquoi découvrir si c'est pour tuer ce qu'on découvre ? D'ailleurs, Christophe, qui découvre dans une découverte ? Celui qui fait l'effort de voyager découvre. Mais le découvert découvre aussi celui qui s'avance vers lui. Un peu plus loin. Christophe, Christophe, pardon de t'importuner. Là où tu es, tu dois avoir bien d'autres sujets en tête. Combien étaient les Indiens, Christophe, quand tu as débarqué ? Et combien sont-ils aujourd'hui ? Regarde, écoute, tant nous avons assassinés que l'île espagnole derrière moi est presque aussi déserte que la mer. Christophe, Christophe, es-tu bien sûr d'avoir découvert les Indes ? D'ailleurs, qu'importe, Christophe ? Christophe, Christophe, n'est-ce pas la loi de la découverte d'être dérouté par ce qu'on découvre ? Merci pour votre livre qui nous déroute et nous fait découvrir tant de choses.